RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Roel.
Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est une victoire pour l'opposition turque.
Pas encore dans les urnes, mais dans les rues d'Istanbul, où une foule compacte a répondu à un appel à manifester hier pour soutenir le maire emprisonné, Ekrem İmamoğlu. On est en Turquie dès le début de ce journal. Eux ne sont pas encore en Birmanie. Ils sont pourtant nombreux, ces secouristes du monde entier, à être prêts à partir dans le pays dévasté par le séisme d'avant-hier. Encore faut-il qu'ils reçoivent leur visa, et ça traîne. Dans ce journal également, un nouveau gouvernement annoncé en Syrie. La Guinée, où l'ex-président Moussa Dadis Camara est sorti de prison, les associations de victimes du massacre du 28 septembre 2009 s'indignent. On sera aussi en Corée du Sud après les incendies monstres du week-end dernier. Et puis en France, où Marine Le Pen sera fixée sur son sort demain dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN.
Le ciel d'Istanbul était bleu hier, mais c'est le rouge qui dominait sur la rive asiatique de la ville.
Le rouge du drapeau turc qui flottait partout dès la mi-journée. Plusieurs centaines de milliers de manifestants ont répondu présents à l'appel lancé par l'opposition pour soutenir le maire Ekrem İmamoğlu, arrêté puis incarcéré il y a une dizaine de jours maintenant, accusé de corruption. Des accusations fallacieuses pour les manifestants. Ils étaient même 2,2 millions selon le CHP, le parti d'İmamoğlu. Anon Dlouwer, vous êtes en direct d'Ankara. Le défi maintenant pour le CHP, c'est de maintenir la pression de la rue.
Oui, qu'ils aient été ou non d'ailleurs 2 millions comme l'affirme le CHP, l'image de cette esplanade géante remplie de manifestants, de drapeaux turcs et de photos d'Ekrem İmamoğlu est une victoire pour l'opposition, tout particulièrement pour la formation du maire emprisonné, puisque depuis de longues années, le CHP souffrait d'une image de parti un peu éloigné de l'espace public, qui n'osait plus investir la rue, dont la voix s'entendait surtout entre les murs du Parlement. Avec cette protestation autour d'Ekrem İmamoğlu, certains commentateurs ici estiment que le CHP, notamment en mobilisant la jeunesse étudiante, est parvenu en quelque sorte à redonner toute sa place au mot « peuple » dans son nom de parti républicain du peuple. Alors l'un de ses principaux objectifs, en effet, c'est de ne plus abandonner les places. Özgür Özel, le dirigeant du CHP, qui est un peu la révélation politique de ce mouvement, appelle désormais à manifester chaque mercredi soir à Istanbul et chaque week-end dans une autre province turque. Son parti lance aussi aujourd'hui une campagne de signatures pour réclamer la libération des Ekrem İmamoğlu et l'organisation d'élections anticipées. Alors, il risque fort de n'obtenir ni l'une ni l'autre avant longtemps, mais nul doute que les images du rassemblement de samedi n'ont pas plu du tout à Recep Tayyip Erdogan.
Ah, merci, Anon Dlouwer, en direct d'Ankara.
Une marée humaine hier donc en Turquie et une montagne de débris en Birmanie.
Le séisme de vendredi a dévasté le pays. Dernier bilan, plus de 1600 morts, 3000 blessés et au moins 139 disparus. Dans les paysages de chaos de Mandalay, près de l'épicentre, cette rare scène de joie hier. Une victime sortie des décombres d'un bâtiment effondré après 30 heures d'attente insoutenable. Une attente qui continue pourtant pour une centaine de personnes qui seraient encore piégées sous les débris de ce même immeuble. Alors les secouristes continuent leur travail. Ils pourraient être épaulés par d'autres venus de plusieurs pays qui ont répondu à l'appel à l'aide lancé par la junte birmane. Oui, mais voilà, Pierre-Olivier, rien n'est fait pour faciliter les démarches.
En Allemagne, aux États-Unis, en Russie ou encore en France, des dizaines d'équipes de secouristes sont prêtes à venir en aide à la Birmanie. Problème, depuis 24 heures, Thierry Velu et ses hommes du groupe de secours catastrophe français attendent le feu vert des autorités birmanes.
Bien que l'aide internationale ait été demandée, nous on n'a pas eu les retours d'informations qu'on souhaitait, on n'a pas réussi à joindre les autorités, notamment l'ambassade à Paris est en plus fermé, que ça soit au niveau des visas, au niveau de l'entrée. On n'a aucune information là-dessus et qui prend en charge notre arrivée, qui nous accueillera. On n'a vraiment aucune information, étant donné que à l'heure actuelle, la demande de visa est toujours d'actualité pour se rendre là-bas, équipe de secours ou pas.
Pourtant, les besoins, comme après chaque séisme, sont énormes.
La première recherche de victimes et localisation de victimes en urgence, il va y avoir des besoins en eau pour le traitement de l'eau, parce que ça doit être un facteur qui a à prendre rapidement en compte. Bien qu'on sache qu'il faut localiser le plus rapidement possible des victimes sous les décombres, on est totalement dans l'incertitude. C'est vraiment compliqué.
Le GSCF espère obtenir ses visas dans les heures qui viennent pour pouvoir acheminer une quinzaine d'hommes et du matériel de recherche et d'écoute.
La précision de Pierre-Olivier. La Thaïlande, elle, annonce avoir envoyé 55 militaires en Birmanie, alors qu'elle-même a été secouée par ce tremblement de terre. 17 morts à Bangkok, selon les derniers chiffres des autorités locales. Des milliers de manifestants israéliens hier à Tel Aviv pour appeler le gouvernement à accepter un accord de cessez-le-feu à Gaza pour permettre la libération des otages. Si le Hamas dit avoir accepté une nouvelle proposition de la part des médiateurs, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou indique, lui, avoir fait une contre-proposition de trêve en totale coordination, nous dit-on, avec les États-Unis.
En Syrie, un gouvernement sans Premier ministre.
Il a été dévoilé hier, plus de 3 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante en Syrie. 23 ministres annoncés, dont de nombreux fidèles du groupe HTS, Ayad Tahrir al-Sham, qui a mené la rébellion en décembre.
Et quelques ministres chargés de la gestion des affaires courantes depuis la chute de Bachar al-Assad qui restent en poste. Celui des affaires étrangères, Assad al-Shibani, le ministre de la Défense, ancien cadre de HTS, Mouraf Abou Kassra, ainsi que l'ex-chef des renseignements généraux, Anas Katab, nommé ministre de l'Intérieur. Le président par intérim s'est exprimé tard dans la nuit au palais du peuple de Damas devant une poignée de journalistes et des personnalités syriennes venues de tous horizons. Car quelques semaines après les massacres survenus sur la côte contre la minorité alaouite, le président syrien s'est voulu inclusif. Il compte parmi ses 23 ministres un druze, un kurde, un alaouite et une chrétienne, une femme, Ine Kabawat, ancienne opposante au régime de Bachar al-Assad et co-organisatrice de la conférence de dialogue national fin février. Autre nomination bien reçue parmi la société syrienne, celle de Raed al-Saleh, le chef des casques blancs, secouristes syriens qui ont longtemps œuvré dans les zones rebelles durant la guerre civile. Fait notable, il n'y aura dans ce gouvernement aucun premier ministre. Cela avait déjà été fixé par la déclaration constitutionnelle début mars et renforce les pleins pouvoirs conférés à Ahmed al-Shara, président par intérim jusqu'aux prochaines élections prévues dans 5 ans. Manon Chaplin, Damas, RFI.
Moussa Dadis Camara est libre.
Depuis vendredi soir, mais ce n'est qu'hier soir que la télévision guinéenne a diffusé les images de l'ex-président sorti de prison. Il a été gracié quelques mois seulement après sa condamnation à 20 ans de réclusion pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Incompréhension chez les victimes comme chez Fatoumata Bari dont la sœur avait été violée ce jour-là.
Ça nous a surpris tous ici de voir cette grâce. On sait qu'il y a une raison de politique dedans. Ce que nous devons dire à l'État, c'est de prendre les responsabilités et de ne pas manipuler le processus de la justice au profit de leur intérêt personnel. Et nous demandons à l'État de prendre toutes les mesures de sécurité pour les victimes, protection et sécurité pour les victimes. Quand même, c'est un peu choquant de voir les choses pareilles. Et c'est la manière de le faire. Ils ont dit comme c'est la raison de santé. Les raisons humanitaires, nous, les victimes, on est malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades.
Des propos recueillis par Pierre Firsion.
Un homme au cœur de l'enquête en Corée du Sud.
La police devrait le convoquer prochainement. Elle le soupçonne d'avoir déclenché les feux de forêt du week-end dernier dans le sud du pays, les plus destructeurs de l'histoire de la Corée du Sud. Ils sont désormais presque maîtrisés. Après avoir brûlé 48 000 hectares, 30 personnes sont mortes. À Andong, capitale d'une province au sud-est de Séoul, les flammes ont quand même repris hier. Notre correspondante Camille Ruiz est allée là-bas pour rencontrer les dizaines de milliers de personnes qui ont dû fuir le brasier. Reportage.
Dans le gymnase au centre-ville d'Andong, des dizaines et des dizaines de tentes grises en rang d'oignon. Dans un coin aménagé, des enfants font de la pâte à modeler, imperturbables. Mais ce sont les personnes âgées qui sont les plus nombreuses et les plus inquiètes. Shoyeonja a 80 ans et elle vient de la commune d'Ima, à 200 km au sud-est de Séoul. Elle est assise dans sa tente sur un matelas aussi fin qu'un tapis, en compagnie de ses deux amis et voisines.
On a fui dans une voiture que le chef du village je conduisais, mais le feu était déjà là, des deux côtés de la route. J'ai cru que j'allais mourir, j'avais tellement peur. Au téléphone, mon fils m'a dit « Maman, ne pense qu'à toi et surtout ne retourne pas voir la maison ».
En partant, Yeonja n'a pu emporter que ses précieux médicaments. Son Moon-young, 73 ans, a trouvé refuge dans une école de l'autre côté de la rivière qui sépare la ville. C'est dans celle-ci que puisent les hélicoptères pour tenter d'éteindre les feux. Mais pour le retraité, c'est déjà trop tard.
Ma maison a été réduite en cendres, tout a brûlé. Nous avons fui en voiture, ma femme et moi, sans pouvoir rien emporter. Dans mon quartier, il y avait un vieil homme âgé qui avait du mal à se déplacer. Cette personne est morte là-bas. Je me rappelle l'avoir vue de loin. Je suis tellement désolé, je n'ai pensé qu'à moi.
Selon les services forestiers, la majorité des victimes avaient entre 60 et 80 ans. Ce sont les feux les plus mortels de l'histoire de la Corée du Sud. Camille Ruiz, Andong, RFI.
En France, Marine Le Pen sera fixée sur son sort demain.
Et c'est sa carrière politique qui se joue, puisque dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN, l'accusation a requis contre elle une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate. Mais qu'importe, Valérie Gasse, Marine Le Pen se dit sereine.
Depuis des jours, les spéculations vont bon train sur son état d'esprit. Alors Marine Le Pen a décidé d'y couper court en répondant à la tribune dimanche. Et pas question pour elle de manifester de la nervosité. Elle déclare ainsi « Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas. » La chef des députés RN à l'Assemblée nationale fait en sorte de montrer sa capacité à gérer la pression en attendant une décision qui peut pourtant mettre un terme à ses ambitions présidentielles. Et elle emploie à nouveau une formule choc. Les juges ont un droit de vie ou de mort sur notre mouvement. Manière de dramatiser l'enjeu et de ramener la décision de justice sur le terrain politique. Mais sa conviction, c'est que les juges n'iront pas jusqu'à la condamner à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate même en cas d'appel. Marine Le Pen, qui avait accusé le coup lors des réquisitions et manifesté de la colère, semble avoir changé d'état d'esprit et affirme qu'elle n'a pas mis au point de stratégie pour réagir aux conséquences du jugement, comme pour repousser l'hypothèse qu'elle en aurait besoin.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Il est 8h11 à Paris.
Et non pas 7h11, comme vous l'indiquent peut-être encore vos montres, car en France, comme dans de nombreux autres pays, on est passé à l'heure d'été cette nuit. Ça fait pourtant 6 ans maintenant que le Parlement européen ne cache pas sa volonté de mettre fin à cette pratique décriée, notamment par les professionnels de santé. Depuis, le dossier s'est complètement enlisé, mais ça pourrait changer. Elena Loison, la Pologne a décidé de s'emparer du sujet.
Oui, début janvier, la Pologne a pris la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois et annoncé faire de cet épineux dossier l'un de ses projets phares, notamment car le changement d'heure est une pratique dépassée, selon Christophe Pasik, le ministre polonais du Développement et des Technologies.
Aujourd'hui, l'économie est basée sur la technologie. Et là où il y a de la technologie, ces processus de changement d'heure provoquent des confusions inutiles. Et pire, ils engendrent des coûts pour de nombreuses entreprises qui sont très avancées en termes de technologie.
Des discussions techniques doivent se tenir à la fin du mois d'avril, mais la tâche s'annonce ardue dans les 3 mois qui restent à la Pologne, car c'est l'un des serpents de mer de la politique européenne. La Commission en parle depuis 2018, le Parlement l'a voté en 2019, le dernier changement d'heure devait même avoir lieu à la fin de cette année-là. Et depuis, plus rien, le dossier est au point mort, tous les pays sont d'accord sur le principe. Mais il faut choisir entre se fixer sur l'heure d'été ou l'heure d'hiver de manière permanente. Et c'est de là que vient le désaccord. Les pays du Nord privilégient l'heure d'hiver, ceux du Sud l'heure d'été. Du côté de la Commission européenne, face à l'impossibilité de mettre d'accord les 27, on commence très sérieusement à envisager de refermer ce dossier. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Et nous sur RFI, on remet les pendules à l'heure avec Julien Coquelroem.
Merci Gaëtan Planet. À tout à l'heure. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, en Ligue 1, Paris brille et Marseille sombre.
Des Parisiens très, presque trop faciles, vainqueurs de Saint-Etienne, 6 buts à 1 pendant que Marseille concédait une 3e défaite consécutive. Les Olympiens se sont inclinés 3-1 sur le terrain de Reims, une équipe qui n'avait pas gagné le moindre match de championnat depuis le 10 novembre. Sacré claque qui ne fait pas les affaires des Marseillais dans la bataille pour le podium et les places européennes, d'où ce coup de gueule poussé par le milieu de terrain Adrien Rabiot juste après le coup de sifflet final.
Surtout ça fait mal d'afficher cet état d'esprit là. Voilà, on a des objectifs, on a affiché des objectifs, on en parle chaque semaine, chaque week-end. Ok, il y a eu la trêve, on n'a pas eu le temps de beaucoup préparer ce match, mais voilà, c'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer, qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Dans les duels, on n'est pas présent. Sur le contre-pressing, pareil. On savait qu'ils avaient que quelques armes. C'était les coups de pied arrêtés et jouer sur contre-attaque. Voilà, on n'a pas été capable de les arrêter là-dessus. Sur le premier but, on défend à 3 mètres de l'adversaire. C'est pas possible. Il faut se remettre en question. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste 7 matchs. Si on veut aller en Ligue des Champions, moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition-là, il faut qu'ils le disent tout de suite, il faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. et voilà, parce que c'est pas assez.
Adrien Rabiot sur Beansport. L'OM dépassé au classement par Monaco, vainqueur de Nice 2-1.
Et ce dimanche, suite et fin de cette 27e journée de Ligue 1.
À 13h, temps universel, Toulouse accueille Brest. À 15h15, TU Angers reçoit Rennes. Auxerre face à Montpellier et Le Havre accueille Nantes. Derby nordiste à 18h45, temps universel, Lille reçoit Lens.
En Angleterre, quart de finale de coupe avec Manchester City en déplacement à Bournemouth.
Première rencontre face à une équipe de Première Ligue pour les Citizens après 3 matchs remportés face à des formations d'échelon inférieur. La FA Cup qui reste l'unique chance de titre pour les Citizens avant fin mai. Décroché dans la course au titre et pas encore assuré de finir dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions, Man City aura tout de même la possibilité de ne pas finir la saison bredouille avec la première édition du Mondial des Clubs qui démarrera mi-juin aux États-Unis. Avec ou sans le ballon d'or Rodri, telle est la question. En rééducation, l'Espagnol après sa blessure au ligament croisé. L'entraîneur mancunien Pep Guardiola ne veut pas précipiter les choses.
Le médecin a indiqué qu'il aurait une absence d'environ 7 mois et demi, 8 mois. Nous approchons les 6 mois, 6 mois et demi. Sa réaction à sa reprise sur le terrain est encourageante. Mais la compétition, c'est complètement différent. Donc nous verrons bien pas à pas. Je me repose sur son éthique de travail ou sur ce que les médecins et les kinés disent. Mon objectif n'est pas de grignoter une ou deux semaines ici ou là pour le voir au Mondial des clubs, puis le reperdre à nouveau pour de longs mois. Nous devons nous assurer qu'il est en forme. Ensuite, nous le réintégrerons.
Bournemouth, Man City, coup d'envoi 15h30, temps universel.
Enfin en tennis, Novak Djokovic vise son 100e trophée.
Le serbe ancien numéro 1 mondial peut atteindre ce seuil plus que symbolique. Djokovic opposé en finale du tournoi de Miami au jeune tchèque Jakub Mencik, 54e joueur mondial. Premier service entre les deux hommes, 19h, temps universel. Chez les dames, la biélorusse Arina Sabalenka a remporté la finale face à l'américaine Jessica Pegula en deux manches, 7-5, 6-2.
Merci Antoine Grenier.
Et dans ligne de défense ce matin, l'Europe en ordre de bataille pour s'engager auprès de l'Ukraine. Une trentaine de pays alliés étaient réunis jeudi à Paris pour un sommet destiné à finaliser des garanties de sécurité pour Kiev, dont un éventuel déploiement militaire européen si un accord de paix est trouvé. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Julien.
Les Britanniques et les Français à l'origine de cette initiative vont dans les prochains jours envoyer une mission en Ukraine pour définir les besoins de l'armée ukrainienne et envisager ce possible déploiement, un chemin difficile à tracer, Franck.
Oui, premier axe d'effort, Julien, un soutien accru à l'armée ukrainienne. Il faut déterminer le format d'aide pour cette armée, soit un format finlandais avec, en quelque sorte, une population en armes avec des centaines de milliers de réservistes, soit un modèle d'armée qui tient le front ou encore une armée prête à repartir à l'offensive. Et si cela ne suffit pas, en deuxième ligne, la plus discutée, les pays européens volontaires envisagent de déployer des troupes au sol. Une réflexion qui a débuté le 17 février dernier rembobine le diplomate Jean de Glignasti.
Macron réunit ses collègues européens pour essayer de répondre à un questionnaire de 6 questions présentées par l'administration Trump qui tournait autour de qu'est-ce que l'Europe est prête à faire en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine et quel soutien elle attend des États-Unis dans ce domaine. Et donc l'Europe a essayé d'avancer sur deux fronts, si j'ose dire. D'une part, renforcer son potentiel militaire, ce sur quoi tout le monde est d'accord, et d'autre part, essayer de travailler sur les garanties de sécurité que l'Europe peut fournir. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que seule une partie des Européens est d'accord pour le faire. La présence de troupes européennes sur le territoire ukrainien sera, s'il y a un accord, réglé par l'accord. Et là, c'est très peu probable, parce que les Russes n'en veulent pas, les Américains deviennent réticents, puisqu'ils considèrent de plus en plus que les Européens sont plutôt un obstacle pour l'avancée, le progrès de la négociation.
Des troupes au sol, Franck, c'est une option défendue par Londres et Paris, mais pour quels effets militaires ?
Bien, cette hypothèse a été posée dès le 11 mars dernier par les deux chefs d'état-major, l'amiral britannique Tony Radakin et le général français Thierry Burkhard. Un déploiement qui ne sera pas une force d'interposition, précisé français et britannique, mais qui, pour être dissuasive, devra être composé de grandes unités, soit près de 30 000 hommes. Reste qu'envoyer nos meilleures troupes. C'est un pari risqué, analyse Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Vous avez vu ce que c'est cette guerre en Ukraine? C'est un champ de tir où on tire des milliers de drones par jour sur tout ce qui bouge. Toutes les manœuvres sont tuées dans l'œuf. Vous pouvez pas dissuader avec quelques jours ou deux semaines de munitions. Cette histoire de troupes, elle est dans les limbes depuis plusieurs mois. Tout ça ne reposait que si derrière vous aviez la garantie américaine. Le fait qu'il n'y ait plus la réassurance américaine, tout ça tombe à l'eau.
6 mois, Julien, seront nécessaires, disent les militaires, pour déployer des hommes au sol. Il faudra aussi peser tous les risques, souligne Vincent Touré de l'Université de Montréal.
Si c'est pour créer une finule 2.0 sous menace Iskander, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Parce que nos brigades, même mises sur aller 3 directions différentes importantes, à 50 km de la zone du front, même plus loin, elles n'auront pas la capacité de peser en fait sur l'escalade. Donc en fait, pourquoi aller à l'étape du sol avant de pas faire celle aérienne qui me paraît être un prérequis, quoi.
L'utilisation d'avions de chasse le long de la frontière ukrainienne serait plus rapide et tout aussi dissuasif, font d'ailleurs entendre d'autres voix. Mandat a donc été donné aux militaires français et britanniques de se rendre en Ukraine pour étudier toutes les options.
Ligne de défense, Franck Alexandre. Merci beaucoup. 8h20 à Paris sur RFI, on prend un peu d'avance sur le 1er avril dans 2 jours et sur une cocasse tradition répandue dans de nombreux pays, celle de faire des blagues et des canulars. Les fameux poissons d'avril, comme on les appelle dans les pays francophones, la coutume prend des formes variées selon les cultures et notre tour du monde des correspondants vous propose ce matin 4 exemples dans 4 pays, à commencer par le Royaume-Uni. Ici, on se prépare donc pour le April Fool's Day, alors que les Britanniques sont bien connus pour leur humour pince sans rire. Parfois absurde, Emeline Vin, impossible pour eux de passer à côté du 1er avril.
En Écosse, on chasse le coucou le 1er avril. Pas littéralement, hein. En fait, on envoie un jeune crédule porter un message secret à quelqu'un dans l'enveloppe pour ce quelqu'un. Ne souriez pas et envoyez cette personne chasser le coucou à quelques kilomètres, c'est-à-dire porter un nouveau message, un nouveau destinataire et ainsi de suite jusqu'à ce que le pauvre naïf comprenne qu'on lui joue un tour et qu'il est victime du Hunt the Gawk. Mais ce sont surtout les médias qui s'en donnent à cœur joie au Royaume-Uni avec des canulars de qualité. Un documentaire montrant des pingouins prendre leur envol, un récit de voyage sur une île paradisiaque totalement fictive. L'indétrônable, ça reste ce reportage de la BBC en 1957 montrant la récolte des spaghettis en Suisse. Le diffuseur public avait reçu des centaines de lettres de téléspectateurs très intéressés par la méthode pour faire pousser des pâtes dans leur jardin.
Emeline Vin à Londres et cap sur un autre pays bien connu pour son humour, la Belgique, où les poissons d'avril sont l'occasion de canulars, de fausses infos humoristiques, souvent crédibles. À la radio et à la télé, si la tradition vise avant tout à faire sourire Pierre Benazet, elle peut aussi être grinçante.
Il y a d'abord le poisson d'avril classique, l'année où le footballeur Sergio Conceição a craché sur un joueur lors d'un match du Standard de Liège. Le journal La Dernière Heure a annoncé qu'il était condamné à un travail d'intérêt général, aller soigner des lamas dans un zoo. Pour rester dans le football, l'équipe nationale belge annonce envisager un jour, en hommage à Gaston Lagaffe, de remplacer son maillot rouge par un col roulé vert. Les politiciens eux-mêmes se prêtent au jeu lorsque 2 vice-premiers ministres donnent une fausse interview à la RTBF pour annoncer que le 1er mai ne sera plus une fête chômée puisque de toute façon, eux sont tenus d'aller au défilé. Mais depuis très longtemps, les bisbilles entre flamands et francophones sont au menu des poissons d'avril. Par exemple, l'annonce que les conversations téléphoniques en Flandre seront automatiquement coupées lorsqu'on parlera français. Et ces poissons-là peuvent sortir du 1er avril, car le plus gros de tous a eu lieu un 13 décembre en 2006, lorsque la RTBF rapporte que la Flandre vient de déclarer son indépendance. Un canular qui a provoqué une indignation certaine.
Pierre Benazet à Bruxelles. Du côté du Brésil, le 1er avril est une tradition aux racines anciennes. Elle remonterait à 1828 avec la publication d'un journal, Sarah Cozzolino.
Oui, il s'agit du journal A Mentira, le mensonge, qui a publié la première blague du 1er avril en annonçant la mort de celui qui était à l'époque l'empereur du Brésil, Dom Pedro Ier, annonce démentie le lendemain. Le 1er avril est depuis connu comme le Dia da Mentira, le jour du mensonge, où les blagues et fausses nouvelles sont racontées dans les familles, les médias ou dans les publicités. Mais il y a un autre fait intéressant autour de cette date. Elle fait polémique pour dater le début de la dictature militaire au Brésil, en place place entre 1964 et 1985. Car la date officielle choisie par les militaires est celle du 31 mars, mais la date réelle, selon les historiens, serait bien le 1er avril. Même s'il était déjà question de rébellion militaire le 31 mars, ce n'est que le lendemain que les forces militaires sont entrées dans Rio. Mais faire un coup d'État le jour du 1er avril manquait de sérieux, selon les militaires.
Sara Cozzolino au Brésil, et puis une exception pour terminer en Espagne et dans toute l'Amérique latine hispanophone. On fait des blagues et des canulars une fois par an, mais pas le 1er avril, le 28 décembre, connu comme le jour des Saints Innocents. À l'origine de cette tradition joviale et légère se trouve pourtant un événement historique, sombre et tragique, comme nous le rappelle au Chili Naila de Rouanet.
Dans le christianisme, le jour des Saints Innocents commémore le massacre des enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem. Cette tuerie avait été ordonnée par le roi Hérode Ier pour éliminer le nouveau-né Jésus de Nazareth, qu'il considérait comme un potentiel rival. Mais alors comment est-ce que cet épisode si grave s'est transformé en une célébration drôle et burlesque ? Il n'y a pas d'explication très claire, mais certains historiens estiment qu'au fil des années, c'est le mélange des rites païens et chrétiens qui aurait donné naissance à cette tradition. Au Chili, le 28 décembre, il est de coutume de remplacer le sel par du sucre et vice-versa, et d'attendre la réaction des malheureux qui assaisonneront leur plat. Ou encore, au bureau, coller du ruban adhésif sur le capteur optique de la souris et voir s'acharner son collègue pour la faire fonctionner. Même la candidate de la droite traditionnelle à l'élection présidentielle de 2025 se prend au jeu chaque année. Sur ses réseaux sociaux, elle publie des messages pour berner ses abonnés, annonçant par exemple qu'elle s'éteint les cheveux en verre.
Naila de Rouanet, notre tour du monde des correspondants garantis 100 poissons d'avril à retrouver sur RFI.fr. Et une fois n'est pas coutume ce matin, c'est dans ta nature nous emmène à l'usine, celle de Relief Paper, près de Paris, où l'on recycle des feuilles d'arbres pour fabriquer du papier, ce qui a le mérite d'épargner les arbres eux-mêmes, Florent Guignard.
Oui, nous sommes dans une usine, c'est pas vraiment la nature, et pourtant, juste en respirant au milieu de grosses machines, on se croirait en forêt.
Ah mais oui, on sent le sous-bois.
Bertrand Chevalier est le directeur opérationnel de l'usine Relief Paper au Mureau, en région parisienne, une usine qui recycle des feuilles mortes tombées des arbres en ville pour fabriquer du papier.
Ces feuilles sont ramassées pour pas qu'on glisse. Les déchetteries françaises aujourd'hui récupèrent environ 1,5 million de tonnes de feuilles par an. Soit majoritairement compostés ou brûlés. Alors les brûlés, c'est une aberration. Les compostés, c'est bien, mais nous, on dit on peut faire beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux. De ce déchet, on peut en faire une matière première. Donc ici, on est au niveau du bac de lavage. Comme vous voyez, il y a un bouillonnement, des bulles de jacuzzi. Vous voyez, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de sable dessus. Brahim, tu peux arrêter.
Trier, laver, sécher, broyer et transformer en pulpe la matière première livrée aux papetiers, les fabricants de papier. Les feuilles mortes connaissent une nouvelle vie grâce à 2 amis ukrainiens, Alexandre Sobolenko.
Bienvenue à l'usine de Relief Paper, la première usine au monde qui transforme les feuilles mortes en pulpe pour fabriquer du papier.
Et grâce à Valentin Frechka qui a trouvé la formule pour extraire des feuilles, la cellulose, la base de la pâte à papier qu'on trouve traditionnellement dans le bois, Bertrand Chevalier.
Le règne végétal est bien fait. Dans les feuilles des arbres qui tombent naturellement tous les ans, il y a 40% de fibres de cellulose à l'intérieur et un peu de tanin. Le tanin, c'est ce qui va donner la couleur marron aux feuilles. Les tanins ont un pouvoir antibactérien. Ça permet de réduire la dégradation de la feuille et donc de rallonger sa durée de vie. Ce qui permet, dans un milieu naturel classique, de nourrir progressivement la terre au fil des mois. Nous, cette propriété nous intéresse. Une feuille stockée va se dégrader beaucoup plus lentement qu'un produit végétal classique.
De la cellulose, la matière organique la plus répandue sur la planète, il y en a à peu près autant dans le bois que dans les feuilles. Mais là, au moins, pas besoin de couper des arbres.
Contrairement à la fibre de bois classique, les feuilles, elles tombent tout à fait naturellement, sans rien faire. Je ne mets même pas de l'engrais pour les faire tomber. On est sur un produit beaucoup plus souple, ce qui veut dire que travailler la feuille va demander moins d'énergie, va demander moins d'eau.
Et c'est ainsi que des feuilles mortes deviennent des feuilles de papier.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
sur un air de Dalida. C'est dans ta nature avec Florent Guignard que vous retrouvez à tout moment sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Bientôt 6h30 en temps universel et l'info continue sur la radio du monde. Ne partez pas trop loin. Le journal dans une minute. À tout de suite.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on danse sur tous les sons, sans façon, et on découvre même le concept congolais de danser sans transpirer. Et on éloigne la haine avec le rituel de l'artiste vénézuélienne Rebecca Roger Cruz. Êtes-vous prêts seulement ?
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Centrafrique, après le rassemblement de ce dimanche à Bangui en faveur d'une nouvelle candidature de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle, l'opposition manifestera vendredi contre un troisième mandat du chef de l'État. Que vous inspire le climat politique ?
Appel sur l'actualité 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone du lundi au vendredi à partir de 8h10 TU.
À lundi sur RFI.